France Inter, le 18-20.
Dernier week-end de confinement, lundi, ce sera le début du commencement de la fin de cette séquence totalement improbable qui, espérons-le, sera bientôt arrangée au rayon des souvenirs. En attendant, puisque nous sommes encore contraints à l'introspection, profitons-en pour réfléchir une nouvelle fois à ce qui nous arrive. Ce soir, nous allons le faire avec un homme qui est à la fois médecin, écrivain, académicien, diplomate. Autant dire qu'avec Jean-Christophe Ruffin, on va pouvoir réfléchir en mode grand angle, ce qui n'est pas du luxe par les temps qui courent. À propos de grand angle, on entendra également le photographe franco-brésilien Salgado qui lance un appel pour les populations indigènes de l'Amazonie menacées par le virus. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et Virginie Rouzic, un reportage de Béatrice Duguay au CHU d'Angers et notre rubrique Confinée mais pas résignée avec Antoine Lee, juste avant 19h, l'heure du journal d'Yves Decamps. Ensuite, à 19h20 au téléphone sonne, question sur notre état mental. Confinement, déconfinement, comment allez-vous psychologiquement? On en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Philippe Duclos et Patrick Henry à la technique, ainsi qu'à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Jean-Christophe Ruffin.
Bonsoir.
Un très grand merci d'être avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes un homme aux vies multiples, médecin, écrivain, diplomate. Alors de toutes ces casquettes, quelle est celle qui prend le dessus quand vous vous penchez sur ce qui nous arrive aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt la casquette de médecin?
Oui, bah forcément, parce que en ce moment, je dois dire qu'on a j'ai jamais vu autant de confrères sur les médias. J'espère d'ailleurs que ça va s'arrêter, non pas que je n'ai pas envie de les voir, mais je pense que les médecins doivent rester un peu dans une, c'est toujours mauvais signe quand on en voit beaucoup et quand on en voit autant. Voilà, donc évidemment, oui, c'est le regard médical, mais j'espère que bientôt tout ça, comme vous l'avez dit, sera derrière nous et qu'on pourra avoir un regard plus, j'allais dire, plus sociologique et surtout plus international sur ce qui se passe.
Alors on va parler de tout ça, mais sinon, dites-nous quand même, le citoyen Ruffin, il est confiné à quel endroit dans son chalet de Haute-Savoie, c'est ça?
Ben oui, parce que c'est là que j'écris, mais vous savez, moi je suis un confiné chronique, c'est-à-dire que les écrivains sont tous logés un peu à la même enseigne, c'est-à-dire que vous pouvez vivre, et il faut vivre d'ailleurs, parce que c'est dans la vie qu'on puise la matière des livres, mais arrive un moment où, quand il s'agit d'écrire, à part évidemment Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre qui écrivait dans les cafés, mais la plupart quand même se confinent, donc voilà, alors j'ai l'habitude d'être ici. Je suis d'ailleurs au point de départ de l'épidémie, enfin ce qu'on considère comme le point de départ, parce qu'il semblerait que c'est changé, mais les Contamines Montjoie, le Saint-Gervais ici, était au mois de janvier le lieu des premières contaminations en France.
Qui ont été parfaitement maîtrisées. Alors, il y a des confinements plus ou moins heureux. L'endroit où vous êtes, c'est quand même idyllique, Jean-Christophe Ruffin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on prend quand même son autorisation de sortie quand on habite un endroit pareil? Quand on doit sortir.
Ah oui, mais d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que, si vous voyez, moi, je suis assez haut dans la montagne, dans la forêt, etc. Et j'avais la coutume, comme tout le monde ici, de considérer que ces espaces de montagne étaient des espaces de liberté. Et en fait, on s'est rendu compte avec le confinement que c'était au contraire les espaces les plus faciles à surveiller pour la gendarmerie, avec des hélicoptères, avec des drones, avec des patrouilles, etc. Et tout à coup, par crainte sans doute que nous contaminions, je sais pas, les chevreuils ou les chamois. Enfin, il y a eu une sorte d'hyper surveillance de ces zones. C'est d'ailleurs une des singularités, une des étonnements qu'on peut avoir à l'égard de ce confinement. C'est-à-dire, je crois qu'il a porté sur d'une façon très jacobine, si vous voulez, sur tout le territoire, quelle que soit la façon dont il était concerné. Et bon, ben, la montagne a fait partie des lieux suspects, je dirais, ou en tout cas des lieux très contrôlés.
C'est peut-être une façon de dire aussi qu'on est tous égaux et qu'il faut surveiller tout le monde de la même façon.
Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, je pense que les forces de l'ordre seraient peut-être mieux employées. Mais ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Dans des endroits, on le sait maintenant, où ce virus se propage, c'est-à-dire dans les endroits où il y a une promiscuité, ce facteur de promiscuité, il est central dans l'écologie de ce virus, hein. Et y compris même pour les animaux. À l'origine de ce virus, les chauves-souris sont des mammifères extrêmement qui vivent en groupe extrêmement serré, et donc c'est c'est plutôt dans les zones urbaines, on le voit bien d'ailleurs sur les cartes, que ce virus se diffuse le plus. Avec des paradoxes, si vous voulez, c'est que beaucoup de forêts ont été interdites ou de plages, et les gens du coup se sont entassés sur des trottoirs. Enfin, je pense qu'on a, encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre à quiconque, mais en apprenant à connaître ce type de contagion, de contamination, on va peut-être apercevoir qu'en effet, ça n'est pas sur ces espaces déserts qu'il faut faire porter le plus la surveillance. Mais enfin, c'est pas très grave.
Ce confinement, quand même, Jean-Christophe Ruffin, d'après vous, c'était quoi ? C'était un mal nécessaire, tout de même ?
Oui, c'est-à-dire que il y avait une situation de fait qui était une impréparation totale à cet événement. Et là encore, il ne s'agit pas de stigmatiser de tel ou tel, mais je veux dire que nos pays ont vécu pendant plusieurs dizaines d'années, si vous voulez, dans une sorte de bonheur, de paix. Depuis les Trente Glorieuses, finalement, on a l'habitude de penser que l'Europe, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la santé. C'est la sécurité. Donc, en effet, il ne paraissait pas très nécessaire de se préparer à un événement comme celui-là. Ça a été fait à certains moments. On l'a reproché à Roselyne Bachelot, mais en fait, elle avait raison. Puis ensuite, on s'est un peu désarmé. Et en face de ce qui nous est arrivé là, sans masque, sans test, sans préparation, il y avait guère que le confinement qui était possible. Là où effectivement on peut discuter, c'est disons sur la manière de l'appliquer, parce que ce qui est très intéressant avec ce virus, c'est qu'il a servi, je trouve, de révélateur dans les sociétés dans lesquelles il s'est répandu. Et par exemple, les États-Unis, qui ont une médecine de pointe, qui ont sans doute la meilleure médecine du monde, on s'est rendu compte qu'au quotidien, ils avaient la pire. C'est-à-dire, ils avaient, quand vous êtes pauvre et quand vous êtes un simple citoyen aux États-Unis, vous êtes très mal soigné. Vous voyez, ça a servi de révélateur. Nous, en France, c'est plutôt le jacobinisme. C'est le fait que nos décisions sont toujours prises nationalement, etc. Donc, on a confiné tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas partout. Hein. Par exemple, les Chinois, ils ont confiné que certaines régions. C'est un des effets de ce virus. C'est un révélateur extraordinaire de ce que sont nos sociétés.
Vous pensez qu'on n'a pas assez débattu, justement, du confinement ? Peut-être, n'aurait-il pas fallu confiner tout le monde ? Vous pensez que dans l'urgence, on a renoncé au débat ?
Je pense qu'il y a eu une certaine forme de panique et peut-être de facilité qui a consisté en effet à appliquer quelque chose de global. Je crois aussi que, si vous voulez, le comité scientifique dont on parle beaucoup, qui est présidé par quelqu'un que je connais bien, Jean-François Delfraissy, qui est un homme tout à fait estimable, ce comité scientifique a vécu cette crise, a anticipé cette crise, a compris cette crise, et on ne peut pas lui en faire le reproche, avec les lunettes du VIH, les lunettes du SIDA, si vous voulez. Faut comprendre que dans ma génération de médecins, qui était la génération de Delfraissy aussi d'ailleurs, le grand événement, la nouvelle maladie, ça a été le SIDA. Ouais. On a vu apparaître ça. Et c'est-à-dire une maladie pérenne, qui allait durer, pour laquelle il fallait des nouveaux médicaments, pour laquelle il fallait de nombreuses études, très bien menées, très épidémiologiques, etc. Voilà. Et quand on a vu arriver cette crise, on l'a pensé, ils l'ont pensé de la même manière. Or, en fait, il se dessine que c'est pas du tout ça, le Covid. C'est une crise saisonnière. Alors on peut discuter de savoir il y aura un rebond ou pas rebond, mais enfin, c'est quand même le schéma de ces virus respiratoires saisonniers, si vous voulez, qui demande d'utiliser des moyens très immédiats, parce que si on attend les résultats de Discovery, si vous voulez, l'étude multicentrique, là, on l'aura peut-être en septembre, on l'aura peut-être jamais. Donc, il fallait trouver quelque chose tout de suite, il fallait trouver des moyens de réaction tout de suite, et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a là une différence d'appréciation, si vous voulez, entre une maladie comme le sida, qui est une maladie pérenne, une maladie durable, et puis une grande crise qui nous pète à la figure comme ça, et qui va probablement, je l'espère, et c'est ce qui est en train de se passer, disparaître au bout de quelques semaines.
On a surtout, je pense, Jean-Christophe Ruffin, voulu éviter l'effondrement de l'hôpital dans les zones les plus touchées. On a poussé les murs, on a tout réorganisé. Alors, on va écouter un reportage justement au CHU d'Amiens, où on a soigné les malades du Covid qui ont été transférés de l'Est de la France et de la région parisienne. Aujourd'hui, on sent que ça s'arrange, mais on redoute malgré tout les conséquences du déconfinement, les conséquences éventuelles. C'est un reportage de Béatrice Duguay. Depuis 10 jours au CHU d'Angers, les nouvelles sont très bonnes pour Valérie Rabier, infectiologue responsable d'un service de médecine.
On a fait un diagnostic en 7 jours, là, dans mon unité de 16 lits. La grande question, c'est que va devenir cette épidémie? Est-ce qu'elle va repartir avec le déconfinement? Ou est-ce qu'elle va s'éteindre d'elle-même? C'est une possibilité aussi. Mais il faut mieux qu'on se prépare au fait qu'elle puisse repartir.
Valérie Rabier voit bien qu'il y a du relâchement pourtant depuis 2 semaines, sans générer de nouveaux cas, ni trop de stress d'ailleurs chez les soignants. Il faut bien revivre. Dit Marie-Astrid Nyon, infirmière en réanimation.
Les gens sont aussi obligés de repartir travailler à un moment ou à un autre, hein, donc je ne crains pas forcément que tous les gens fassent tout et n'importe quoi. J'espère qu'il y a une conscience personnelle pour tout le monde.
Aujourd'hui.
Pour garder l'état des lieux, c'est ça, votre service ?
Oui, c'est le nombre exact de patients présents.
Le service de réanimation du professeur Alain Merca a vu passer 80 patients atteints de coronavirus depuis le mois de mars. Il en reste 13 aujourd'hui. Les 3/4 des lits sont à présent occupés par des patients non-Covid.
On a quand même du temps pour prendre en charge tous ces patients non-Covid. Si l'ensemble de nos concitoyens appliquent les mesures d'hygiène des mains, de port du masque, de distanciation physique, on peut espérer qu'il n'y ait pas deuxième vague.
Et si deuxième vague il y a, elle sera visible à son tout début, après la première semaine de juin. Les soignants d'Angers se préparent au plus mauvais des scénarios, mais ils affichent une sérénité certaine.
Donc c'était bien au CHU d'Angers et pas d'Amiens, comme je l'ai dit bêtement. Jean-Christophe Ruffin, on a donc voulu éviter l'effondrement de l'hôpital, parce que on est arrivé à cette crise avec des moyens réduits. C'est quoi ? C'est cette organisation sanitaire, cette logique comptable hospitalière qu'il va falloir remettre en cause, à laquelle il va falloir réfléchir en tout cas pour la suite ?
Ah ben il est certain que ça va laisser des traces fortes, c'est-à-dire que l'hôpital était toujours une sorte de variable d'ajustement, la santé en général. Il y avait des priorités dans les budgets, etc. Et finalement la santé, on avait un petit peu l'impression que, d'abord parce que il y avait des résultats extraordinairement favorables en matière d'espérance de vie, etc., que tout ça était des acquis, c'est-à-dire qu'on allait que vers le mieux. Bon là on se rend compte qu'il y a qu'il peut y avoir à tout moment des tensions fortes. Qui peuvent de nouveau, en effet, submerger ces systèmes de santé. Puis quand on regarde un peu ce qui s'est passé autour, on se rend compte que des économies comme l'économie allemande, non seulement est forte et prospère, mais c'est une économie qui a su aussi faire retomber, je veux dire, sa prospérité et son bien-être, si je veux dire, sur les systèmes hospitaliers, ce qui lui a permis d'éponger beaucoup mieux que nous la vague épidémique. Donc ça, bien sûr, ça va produire des effets. On va plus regarder la santé de la même manière après cette crise, c'est sûr.
En tout cas, vous parlez de l'Allemagne, alors on va dire un petit mot de ce qui s'est passé au niveau international. D'abord, peut-être ici, en Europe, parce que la principale conséquence, la première conséquence de cette pandémie, ça a été le retour des frontières, y compris à des endroits où personne n'imaginait les voir revenir, comme justement entre la France et l'Allemagne.
Oui, mais des frontières et plus grave encore que les frontières, d'une certaine animosité contre les personnes, parce qu'en Allemagne vous avez vu qu'il y a eu des gestes un petit peu hostiles à l'égard des Français, qu'on a vu ça d'ailleurs ailleurs contre les Chinois ou en Afrique contre les Européens, etc. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été très sceptique sur l'utilisation du mot guerre, si vous voulez, hein, parce que quand le président de la République a dit nous sommes en guerre, bon, je crois qu'il faut garder les mots pour ce qu'ils sont, si vous voulez, on peut pas. C'est pas une guerre, parce que dès qu'on dit guerre, on désigne un ennemi et une personne. Vous voyez, voilà. Mais du coup, il y a eu cette espèce de méfiance, d'hostilité, qui s'est traduite immédiatement par le repli sur des communautés, et la communauté nationale est évidemment la plus commode. Alors ça, moi, je suis convaincu que, personnellement, je suis assez optimiste sur cette épidémie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, mais enfin, je pense que on est vraiment sur la bonne voie. Je ne crois pas du tout, personnellement, mais c'est une hypothèse, mais qu'il y aura une deuxième vague. Je pense que les choses sont en train de se terminer, comme la plupart de ces épidémies de virus respiratoires habituellement. Mais ce qui va rester beaucoup plus durablement, c'est le confinement des États entre eux, si je puis dire. C'est-à-dire la méfiance, l'hostilité, toutes les barrières qui se sont redressées, qui se sont dressées en quelques jours. C'est extraordinaire. Moi, j'étais janvier-février, j'étais au Brésil. Je veux dire, on circulait librement dans le monde, et puis début mars, ça a été terminé, plus possible de bouger. Et ça sera durable.
Alors effectivement, on va parler du Brésil dans quelques instants, mais encore un mot sur l'Europe. Elle a été incapable de parler d'une seule voix, et même les gestes de solidarité, au début, ça n'a pas été évident entre les États au sein même de l'Union européenne.
Non, ben ça c'est dans... Je pense que là, si vous voulez, là encore, l'Europe s'est construite sur cette idée de sécurité, et puis aussi de progressivité des mesures, c'est-à-dire que tout le mécanisme européen sont assez lourds, si vous voulez, tout ce qui est aide d'urgence, par exemple, moi je connais bien le système de l'aide humanitaire au niveau européen, cette aide humanitaire qui est... Le financement est très important. L'Europe finance beaucoup l'aide humanitaire internationale, mais elle l'a toujours fait par le biais des ONG, c'est-à-dire jamais directement. L'Europe est mal outillée, les institutions européennes ne sont pas outillées pour agir dans l'urgence. Ce qu'on peut espérer, c'est un peu ce qui se dessine, c'est que finalement, dans la phase actuelle, qui va être une phase, parce que là, la phase d'urgence, elle est économique aujourd'hui, maintenant, que dans cette phase-là, il y a de nouveau la reconstruction d'une forme de solidarité européenne. Alors c'est pas gagné, parce qu'on voit bien qu'il y a des tas de pays qui n'ont pas tellement envie de partager les efforts et d'aider ceux qui ont été les plus touchés. Mais enfin, ça progresse quand même, et un certain nombre de résultats ont été obtenus ces derniers jours.
Alors, vous avez été médecin humanitaire, hein, vous l'avez dit, Jean-Christophe Ruffin, je crois que vous étiez président d'Action contre la faim. Je voudrais qu'on dise petit mot de l'Afrique, que vous connaissez aussi, parce que vous avez été notamment ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Alors, on a un petit peu de mal encore à évaluer la situation précise du continent africain, mais pour l'instant, hein, je dis fort heureusement, on n'a pas l'impression d'assister à la catastrophe annoncée, redoutée. Tant mieux. Pour quelle raison, d'après vous ?
Ben, moi, j'ai fait partie de ceux qui très tôt ont dit que, enfin, j'ai émis des doutes moi très tôt sur ce catastrophisme à l'égard de l'aspect sanitaire de la crise en Afrique. Hein. J'ai pas cru pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un continent qui a énormément de relations avec la Chine, qui ne les a pas interrompues et qui pourtant n'a pas vu se multiplier les cas. Bien sûr, peut-être qu'on peut dire qu'ils testent pas suffisamment, etc. Mais enfin, s'il y avait eu des épidémies de pneumonie, etc., ça se serait vu. Et puis, ce sont des populations très jeunes, ce sont des populations qui ne sont pas forcément la cible principale de... Et puis, il y a un écosystème de ce virus autour de la question du climat, etc., qui probablement ne rend pas très favorable. En revanche, ce qui, là, risque de frapper l'Afrique, enfin, c'est pas un risque, c'est une réalité déjà, c'est le contre-coup économique de la crise mondiale, parce que si vous voulez, le ralentissement de la demande, voire l'effondrement d'ailleurs, pour des pays qui sont souvent des mono-exportateurs, soit de matières premières, soit d'énergie, si vous voulez, c'est une catastrophe. Donc l'Afrique est épargnée sur le plan sanitaire, on peut l'espérer, en tout cas c'est ce qui se dessine. En revanche, elle va prendre de plein fouet les conséquences économiques de tout ça.
Alors, comme promis, maintenant, on va s'intéresser au Brésil, puisque vous êtes, Jean-Christophe Ruffin, un grand voyageur, un amoureux du Brésil. Faut-il rappeler votre roman, Rouge Brésil, qui a obtenu le Goncourt en 2001. Aujourd'hui, le Brésil est dirigé par un homme pour qui les peuples indigènes ne comptent pas beaucoup, on va dire. Ils étaient déjà en danger du fait de l'exploitation de la forêt. Il se trouve que la pandémie de Covid-19 vient encore renforcer la menace qui pèse sur eux. Le grand photographe franco-brésilien Sebastião Salgado vient de lancer une pétition pour les Indiens d'Amazonie. On en parle dans quelques minutes, mais on va d'abord l'écouter. Il explique à Olivia Ferrandi pourquoi, d'après lui, il y a urgence.
Depuis la découverte du Brésil, on a une perte énorme des populations indigènes à cause des maladies européennes. Les Indiens n'ont pas une protection immunologique contre ces maladies. Moi-même, quand je viens travailler dans les communautés indigènes, je suis obligé de passer plusieurs examens médicaux, de faire une quarantaine d'au moins 10 jours avant de toucher les populations. Et là, aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est un danger immense. Les terres indiennes, elles commencent à être envahies par des orpailleurs, par des gens qui exploitent les bois, par des fermiers, par des sectes religieuses. On a plus de 20 000 qui ont envahi les territoires Yanomami. Et donc, on a une préoccupation immense qu'ils amènent la maladie. Et là, c'est un vrai génocide. J'utilise un mot fort, génocide, parce que le gouvernement est au courant de ce danger de la population. Il incentive ces gens à pénétrer dans son territoire. Et donc, Là, c'est un risque total d'anéantissement d'un peuple, d'une culture.
Vous accusez le président Bolsonaro d'encourager les orpailleurs, d'encourager la déforestation. Déforestation qui a d'ailleurs encore progressé au cours des 4 premiers mois de l'année. 1200 km² de forêt qui ont disparu entre janvier et avril.
C'est pas seulement moi qui accuse. Tout le monde accuse. Tous les gens au Brésil, les organisations qui travaillent avec les populations indigènes l'accusent. Avant qu'il rentre au pouvoir, sa campagne politique, c'était contre l'Amazonie, c'était contre les populations indigènes. Et après qu'elle est arrivée au pouvoir, il n'a pas arrêté.
Est-ce que vous savez s'il y a des cas de coronavirus parmi ces populations aujourd'hui?
Il y en a des cas, mais ils les ont envoyés en ville. Cette personne, c'était un garçon de 15 ans, il a eu le virus, il est mort. 2 jours après, il était mort. Donc, par ces cas-là, on voit qu'ils n'ont aucune défense. Et on a beaucoup d'Indiens qui sont morts du coronavirus, mais des Indiens qui vivent en ville. Il y en a à peu près 30 000 Indiens qui vivent dans la ville de Manaus. C'est une ville qui est profondément touchée par le coronavirus. Mais la population indigène qui est en forêt, on n'a pas encore des cas d'information d'Indiens qui sont morts.
Est-ce qu'il y a un système de soins, de médecine au sein de ces tribus? Je sais qu'il existe un hôpital public en Amazonie colombienne, par exemple. Est-ce qu'il y a ce genre de structure aussi côté brésilien?
Il y en a. Il y en a une structure fabuleuse du côté brésilien. C'est un département du ministère de la Santé qui assiste les populations indigènes. Mais pour des maladies ordinaires, pour des accidents, dans la majorité des villages indiens isolés, on a un infirmier. Et on a une assistance d'un médecin qui passe une fois par mois. Mais pour les coronavirus, qu'on a besoin d'oxygène, qu'on a besoin d'un soin beaucoup plus grand, là, on n'a aucune possibilité. Par exemple, l'oxygène, on ne peut pas le transporter par des petits avions. Il faut le transporter par des bateaux. Vous savez, les distances sont énormes en Amazonie. Là, ça ferait des semaines de bateaux pour toucher un de ces tribus. L'Amazonie brésilienne, elle est 8 fois plus grande que la France tout entière. Là, vous pouvez imaginer les distances, les difficultés, l'isolement de ces tribus. Si la maladie rentre, on n'a aucune possibilité de les assister médicalement comme il faut. Et là, ils seraient presque abandonnés à leur sort.
Avec aussi un habitat communautaire, parfois, avec ce qu'on appelle, je crois, les malocas, ces structures qui abritent plusieurs familles.
Absolument. L'année dernière, j'ai travaillé sur une maloca qui abrite plus de 600 personnes. Vous savez, il y a un contact très proche. Mais une partie de ces tribus sont en train d'abandonner leur village et rentrer en forêt pour essayer de n'avoir aucun contact. Mais d'autres ne peuvent pas faire. Les vieux, ils vont rester en arrière. C'est dramatique ce que se passe.
Vous appelez à mettre sur pied une force spéciale pour chasser ceux que vous considérez donc comme des intrus afin de protéger ces populations. Est-ce que c'est vraiment possible dans un pays dirigé donc par ce président d'extrême droite et qui pourrait constituer cette force spéciale?
C'est bien possible. Les manifestes qu'on a faits, on a dirigé au corps législatif brésilien et aux autres instances juridique brésilienne. Et donc, ils peuvent ou demander une intervention ou proposer une loi, ils peuvent le faire. Et la force, ça serait l'armée. L'armée brésilienne, c'est l'institution la plus présente en Amazonie et elle fait un travail colossal avec les tribus. Donc, il faut qu'il y ait un mandat pour que l'armée puisse intervenir. Et donc, on a un grand espoir qu'un de ces trois pouvoirs puisse réagir. Je ne crois pas que le président le fera. Mais j'ai un grand espoir que les 2 autres pouvoirs puissent réagir.
Sébastien Salgado, dans le monde de demain, après cette crise, nombreux sont ceux qui plaident en Occident pour une autre politique vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement. Que pourraient nous apprendre ces populations autochtones dans ce monde d'après, elles qui savent si bien préserver la biodiversité?
Vous savez, en vivant dans les villes comme on vit aujourd'hui à Paris, à Rio de Janeiro, à Beijing, on est devenu une espèce d'alien de notre planète. On ne connaît plus rien de notre planète, de notre Terre. Ces populations, ils connaissent. Ils vivent vraiment en totale cohérence avec la nature. Ils connaissent une quantité de médicaments que cette forêt peut nous fournir. On pourrait fournir aux grandes industries des pharmacies, aux grandes industries cosmétiques, des produits méconnaissables pour nous. Et ils les connaissent. Et on a à peu près 100 des groupes qui n'ont jamais été contactés. C'est la préhistoire de l'humanité. Elle est dans la forêt amazonienne. On ne peut pas permettre que ça soit éliminé.
Merci beaucoup, Sébastien Salgado.
C'est un plaisir. Au revoir.
Donc le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado avec Olivia Ferrandi. La pétition qu'il a lancée a déjà recueilli de très nombreuses signatures dans le monde entier, dont celle de Gilberto Gil, Sting, Pedro Almodovar, Meryl Streep et j'en passe. Toujours en ligne avec nous depuis les Alpes, l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, vous connaissez évidemment très bien le Brésil et notamment ce secteur où la pandémie explose.
Oui, ben il se trouve, c'est un peu un hasard que j'étais en effet en Amazonie. J'ai descendu tout le fleuve depuis pratiquement la Colombie jusqu'à Belém au mois de janvier-février dernier. Ce que dit Sébastien Salgado est juste. Je suis un peu plus sceptique sur la connexion qu'il fait avec le coronavirus. Je pense que de toute façon, personne n'est immunisé contre le coronavirus puisque par définition c'est une maladie nouvelle. Donc les Indiens, pas plus que les autres. Et je pense que ceux qui sont les plus en danger, c'est d'ailleurs ce qu'on constate en observant la situation sur place, c'est que c'est pas ceux qui sont dans la forêt, c'est ceux qui sont plutôt dans les villes, dans les bidonvilles et dans cette énorme ville de Manaus par exemple qui est gigantesque et qui est une ville où il y a une très grande pauvreté et donc une très grande promiscuité. Et encore une fois, ce virus, c'est un virus de la promiscuité. Donc finalement, les Indiens qui sont dispersés, effectivement ils sont très loin, effectivement ils ont un accès aux soins qui est difficile, mais je pense qu'ils sont beaucoup moins menacés que ceux qui sont à Manaus. Et en effet, c'est à Manaus en ce moment que la situation sanitaire est la plus chaotique, parce que elle est vraiment complètement hors de contrôle. Là où il faut se méfier, tu vois, c'est que quand on fait une pression internationale sur l'affaire amazonienne au Brésil, on provoque des réactions nationalistes très très violentes, y compris de gens d'ailleurs qui ne sont pas pour Bolsonaro, qui ne sont pas pour ce président, mais qui vont vous répondre l'Amazonie c'est à nous, vous voyez, touchez pas à ça, c'est à nous, c'est pas du tout un bien mondial, c'est un bien brésilien. C'est compliqué, et je pense que quand on est étranger, ce qui n'est pas le cas de Salgado puisque lui est à moitié brésilien, et surtout brésilien, on peut intervenir, mais quand on est étranger, il faut faire très attention à ne pas braquer, j'allais dire, les Brésiliens, ce qui aboutirait au résultat contraire.
Et on reconnaît bien là le diplomate que vous êtes. Au fait...
Non, mais c'est une réalité. Mais...
Jean-Christophe Ruffin, en fait, pourquoi vous étiez là-bas au début de l'année? C'était pour quelle raison?
Oui, c'était pour un livre, sur l'Amazonie, sur ce fleuve... Qui est un endroit c'est très très fascinant. L'Amazonie, c'est un monde, c'est une situation qui est très compliquée, parce que il y a Bolsonaro bien entendu qui n'a rien arrangé parce que il est arrivé avec ses gros sabots, mais il faut bien dire que la politique avant lui n'a pas été tellement meilleure, même de la part de gens qu'on a moins critiqués ou qui se sont moins fait remarquer là-dessus. Mais ça fait quand même longtemps que il y a une progression des incendies, qu'il y a une déforestation qui augmente, qu'il y a les orpailleurs en effet qui détruisent la forêt non seulement par leur présence mais par les produits chimiques qu'ils utilisent, par les assassinats d'Indiens qui perpétuent, etc. Donc tout ça c'est vraiment c'est une situation qui est très difficile et je voulais aller voir ça un peu de près. C'est un pays que j'aime beaucoup, je parle la langue et c'est vrai que je voulais m'immerger pendant plusieurs mois là-bas, ce que j'ai fait.
Et pour rester dans l'ambiance, eh bien on écoute Lucas Santana.
Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um. Acelera, atropela alguém, pegar bicicleta. Se derruba, mate, atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós.
Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também, movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome.
Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós.
Lucas Santana, dont la chanson signifie en français « Personne ne lâche la main de personne », un disque choisi pour vous par Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20.
Toujours en compagnie de l'écrivain voyageur Jean-Christophe Ruffin, qui est aussi médecin. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Jean-Christophe Ruffin, pourquoi dites-vous à propos de cette pandémie qui nous est tombée dessus que c'est un retour de l'histoire ?
Ben, c'est un retour de l'histoire parce qu'on l'avait oublié tout simplement, l'histoire. C'est-à-dire que l'Europe a été labourée, on peut dire, pendant des siècles par les guerres, par les épidémies, par les famines, enfin... on a payé un très lourd tribut pendant très très longtemps à tout ça. Et c'est vrai que après la Deuxième Guerre mondiale, après la fin des guerres coloniales, disons, on a connu une sorte de miracle, en fait, hein, à partir des années 60, 70, cette espèce de prospérité. On est né là-dedans, progression constante de l'espérance de vie, élévation du niveau de vie. Alors bien sûr, il y avait des inégalités sociales, mais globalement, il y avait une sorte de paix, de bonheur ambiant, et c'est pour ça d'ailleurs l'humanitaire c'était une manière de se situer par rapport au monde à cette époque-là, c'est-à-dire que les conflits, les problèmes étaient loin, et donc l'Europe, qui d'ailleurs pendant très longtemps était l'endroit où on envoyait l'aide humanitaire. Il ne faut pas oublier que pendant les guerres, pendant tout ça, y compris la deuxième, nous avons été ceux qui recevaient l'aide. Et à partir des années 70, c'est nous qui avons pu la donner. C'est pour ça qu'on a créé des associations nouvelles comme Médecins sans frontières, etc., les French Doctors. On avait enfin cet outil-là, et voilà, il y avait cette dichotomie. Ici la paix, ici la prospérité, la santé, et loin, il y avait les réfugiés, le terrorisme, la guerre, etc. Et aujourd'hui, il y a eu un retour de l'histoire, avec déjà le terrorisme a fait revenir la guerre, avec les migrants, on a vu arriver des camps de réfugiés en plein Paris, bon, ce qui était complètement inimaginable, parce que les réfugiés, c'était loin pour nous, dans notre idée, et puis aujourd'hui, ce sont les épidémies, voilà. Mais tout ça, c'est pas exceptionnel, c'est juste le retour de l'histoire comme on l'a toujours connue.
Et ça nous rappelle surtout qu'on est mortel dans une société où on a plutôt l'habitude de cacher la mort, on va dire.
Oui, alors ça faisait partie des choses qui avaient disparu. C'était une sorte de virtualisation. Vous voyez, vous parliez de la montagne tout à l'heure à l'occasion de ce confinement que je vis moi ici dans cette maison de montagne. La montagne, c'est tout à fait typique. Moi, quand j'ai commencé la montagne, le club alpin français avait comme devise pour la patrie, par la montagne. Vous voyez, il y avait un côté presque militaire, de sacrifice, tous les grands romans, Frison Roche, etc. C'était la mort, hein, c'était la mise en scène de la mort. Et puis on a vu arriver Patrick Hetlinger, les grimpeurs, un t-shirt fluo, vous voyez, qui tout d'un coup... aujourd'hui Alex Honnold, etc., qui grimpent des parois verticales sans corde, etc. Voilà, disparition complète de la tragédie, de la mort. On veut plus la voir, on veut plus, on sait plus qu'elle existe, on ne veut plus qu'elle existe. Voilà. Et puis même les gens âgés, au fond, ne vieillissent plus. D'ailleurs, il y a des endroits du monde, par exemple la Floride, on a l'impression que les gens ne meurent plus. Enfin, mais tout ça, je crois que ça a été jusqu'à son extrême et que cette pandémie est un peu le point d'inflexion, qu'à partir de là, il y a un retour du tragique, certainement, qu'il va falloir vivre.
En tout cas, on entend beaucoup, depuis le début, on entend parler du monde d'après, qui serait forcément différent, meilleur, il y aurait un rebond. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je suis trop âgé pour penser.
Non,
j'ai trop vécu. Mais c'est vrai, depuis le temps qu'on nous dit que les choses vont changer, j'y crois plus. C'est vrai qu'il y a un certain. Je pense que fondamentalement les êtres humains et leurs passions et leurs défauts et leurs travers ne vont pas forcément changer. Je crois pas forcément demain à une sorte d'harmonie avec la nature, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que quand même les traces profondes de cette affaire qui a quand même ébranlé tout le monde, hein, je dirais qu'on va s'en rendre compte avec le temps. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir arrêté le monde. Vous savez, il y a cette phrase de René de Obaldia, qui est notre confrère à l'Académie, qui disait « Arrêtez le monde, je veux descendre ». Bon, ben, c'est ce qui s'est passé, d'une certaine façon, on a arrêté le monde. Et le fait d'avoir arrêté le monde, je pense que va nous faire regarder tout ça, va nous faire digérer tout ça. Il y a quelques choses, au pluriel, plusieurs choses, disons, qui vont changer. Par exemple, notre rapport au lointain. C'est-à-dire que, notamment, si vous voulez, le fait d'acheter des bananes qui viennent de Costa Rica, si vous voulez, ou des fruits, d'Afrique du Sud, de faire tout sous-traiter à la Chine, etc. Je pense que tout ça, ça va quand même, nous interroger. Je pense que le local, les gens se sont beaucoup finalement appuyés sur le local. Là, ils ont été sauvés d'une certaine façon par la proximité, par une certaine solidité de ce qu'on avait sous la main. Vous voyez, et tout ça, ça va, je pense, par exemple, entre autres, entraîner des changements dans les comportements.
Alors, à propos de ces changements, beaucoup de gens se sont mis à bricoler eux-mêmes, à faire des tas de choses. Vous, vous êtes mis à la couture, Jean-Christophe Ruffin, j'ai vu ça. Vous avez raconté dans le Figaro comment vous êtes fabriqué un masque. Vous avez commencé par aller acheter une machine à coudre et ça a donné des... c'est très très drôle quand vous racontez ça. Et vous avez même expliqué que vous avez d'abord essayé de vous fabriquer un masque avec un caleçon et que ça ressemblait à un string façon Chippendale. Ça s'est arrangé par la suite.
J'avais vu ça sur internet, oui, c'est assez marrant. Oui, si vous mettez, effectivement, vous pouvez mettre n'importe quoi sur la tête. Mais d'ailleurs, bon, il y a un aspect comique, mais il y a un aspect très sérieux. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qu'on aurait dû dire aux gens dès le départ. C'est ce que l'Académie de médecine, finalement, a dit en premier. C'est la première à l'avoir dit. C'est mettez n'importe quoi. Mais vous savez, au-delà de savoir si on aime bien les normes, nous, ici en France, alors, de savoir si il y a tant de pourcents de filtration des virus, etc., je crois qu'on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'empêcher la projection de postillons, etc. Bon, et donc n'importe quoi fait l'affaire. Se dire aujourd'hui, on en est pratiquement conscient. Alors si vous avez un masque de compétition, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Je veux dire que j'ai pas une vocation de couturière a priori, mais je suis quand même allé acheter une machine à coudre. Et alors j'ai trouvé la dernière d'ailleurs. Je pense que j'ai pas le seul à avoir eu cette idée-là. Puis après, je suis allé voir les tutoriels sur YouTube, etc. C'est très amusant parce que ils sont quand même faits plutôt pour les jeunes filles. Alors on vous dit les filoutes, bonjour les filoutes, aujourd'hui on va vous montrer les ourlets invisibles.
Allez, c'est pour tout le monde,
bon,
c'est
sympa. c'est-à-dire que moi, ça me gêne pas du tout qu'on m'appelle Filou. Et en plus, c'est très amusant, c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et je dois dire que je me suis mis, en effet, à la couture. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé, je sais pas qui, à une élite de gens qui auraient appris ça tout petit. Moi, je m'y suis mis et je me suis fait des masques. J'en ai fait à mes amis aussi, voilà, autour de moi.
Voilà, Jean-Christophe Ruffin s'est mis à la couture. En ayant peut-être un petit peu abandonné l'écriture, on dit un petit mot, Jean-Christophe Ruffin, de votre prochain livre, il devait sortir normalement, je crois, fin mars, Le flambeur de la Caspienne chez Flammarion. Et évidemment, le virus a tout arrêté.
Oui, bah, il a heureusement, d'une certaine façon, parce que les livres qui sont sortis avant ont été très difficiles à trouver, parce que les librairies étaient fermées. Bon, là, moi, j'ai eu la chance. Normalement, il devait sortir en mars, donc on va le sortir le 17 juin. Et les librairies vont rouvrir, la vie culturelle va reprendre, et ça va être, j'espère, beaucoup mieux. En tout cas, comme c'est un livre qui se passe, donc ça se passe en Azerbaïdjan, c'est toujours un héros récurrent que j'ai déjà fait vivre pendant 2-3 livres et qui là connaît de nouvelles aventures. J'espère qu'il apportera au lecteur la possibilité de voyager, ce que les gens ne vont pas pouvoir faire de nouveau avant longtemps, en tout cas pour aller loin. Et donc moi je vais essayer de tenir ce flambeau là et de permettre à mes lecteurs, même s'ils peuvent pas bouger eux-mêmes, de bouger en lisant et en suivant les aventures de ce héros et bien d'autres.
Un très grand merci Jean-Christophe Ruffin d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Les temps sont durs pour les maisons d'édition, les temps sont durs pour tous les secteurs. On va le voir avec ce reportage d'Antoine Lee qui a rencontré une horticultrice de Loire-Atlantique. C'est notre rubrique confinée mais pas résignée. Bonjour Antoine.
Bonjour Claire, bonjour à tous. Direction Saint-Nazaire, on y retrouve Aurélie et ses fleurs. Cette horticultrice a lancé son entreprise en février dernier, une exploitation de 1 hectare de sang qu'elle gère toute seule. Sa spécialité, ce sont les roses, les tulipes ou encore les fleurs de lys. Mais le coronavirus a mis un coup de frein à son projet. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous avez pris le confinement de plein fouet le 22 mars dernier. Racontez-nous ce qu'il s'est passé.
Je suis arrivée sur le marché de Saint-Brévin avec ma production de tulipes. Et là, le placier m'a dit, ben non, demi-tour, vous n'allez pas pouvoir vendre ce matin. Je vous avoue que sur le coup, ça a été vraiment un coup de massue pour moi. Donc, les larmes sont mises à couler parce que j'avais énormément de marchandises, beaucoup de tulipes fraîches cueillies dans mon camion. Et là, je me suis dit que tout s'écroulait, quoi.
Vous avez dû vous adapter pour continuer votre affaire. Comment avez-vous fait ?
Pendant le confinement, donc je n'ai pas le droit du tout de vendre de fleurs coupées, étant donné que c'était pas un produit de première nécessité. Ce qui fait que je vendais uniquement mes plants de légumes et mes aromatiques. Ce qui fait que j'ai refait beaucoup de semis de façon à avoir des plants de légumes et des aromatiques, parce que là je me suis dit, si j'arrête de semer, je n'aurai plus du tout le droit de vendre. Alors j'ai voulu faire des livraisons. Et puis de là, j'ai mis en place un drive 2 fois par semaine devant mon habitation.
Comment ça marchait ?
Les gens passaient devant, ils restaient vraiment dans leur voiture, entr'ouvraient un tout petit peu leur carreau et choisissaient leurs produits directement sur place.
Et ça, c'était facile d'ailleurs de leur dire de rester dans leur véhicule ou il y en a qui voulaient sortir ?
Non, pas du tout. C'est pas simple parce que les gens, c'était un petit peu la sortie exceptionnelle. Bon, il fallait un petit peu... leur expliquer gentiment et puis ça se passait très très bien.
Lundi, c'est le début du déconfinement progressif. Vous, comment vous allez vous organiser ?
Les marchés devraient reprendre, sauf que moi, vu que je viens tout juste de m'installer, les mairies ne m'acceptent pas. Étant donné que je n'ai pas un abonnement à l'année, mais des petits abonnements saisonniers.
Et donc là, comment vous allez faire alors ?
Je poursuis mes drives et mes livraisons. Donc là, j'ai la chance d'avoir 2 amis qui viennent me prêter main forte bénévolement pour sauver les meubles, quoi.
Et ça, comment vous le vivez, ça ?
J'ai peur, quoi. L'après me fait peur parce que là, je vais avoir des grosses quantités de fleurs à venir et j'ai peur de perdre mon exploitation. Là, je vous avoue que j'ai dû perdre 10 kilos depuis le confinement.
Et qu'est-ce qui vous fait tenir, Aurélie ?
Déjà, la passion que j'ai pour mon métier qui m'épanouit. Je pars d'une graine, j'arrive à un aboutissement d'avoir une magnifique fleur. Il faut que je sois guerrière, je me vois pas arrêter ce métier que j'aime plus que tout.
Pour connaître les dates et l'adresse pour les drives des fleurs d'Aurélie, toutes les infos sont sur notre page web. Merci Aurélie et vraiment, on vous souhaite bon courage.
Merci, au revoir.
Et un grand merci Antoine Lee. Dans un instant, le journal de 19h. Ensuite, le téléphone sonne. Ce soir, on s'intéresse à notre santé mentale. Confinement, déconfinement, comment allez-vous psychologiquement ?